Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Est un vilain défaut.
L'épiderme de la Terre est fragile. Dans les milieux secs et arides, il est particulièrement vulnérable.
RTL.
Il faut parfois 500 ans pour que 2,5 cm de sol se forment. Mais seulement quelques années suffisent pour les détruire. On appelle ça la désertification.
Jusqu'à 22h.
La désertification n'est pas l'avancée naturelle du désert. C'est l'épuisement des terres cultivables sous l'effet de l'activité humaine et des changements climatiques.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Notre sujet du soir, posé et incarné par la voix de Yann Arthus Bertrand, l'un des défenseurs de la planète, c'est classe. Alors comment lutter contre ce désert qui grignote nos terres? Comment préserver nos surfaces cultivables? C'est la question à laquelle commencent à répondre certains architectes et ingénieurs. Et on en parle ce soir avec notre invité et compagnon du Parisien Magazine, collègue, confrère, Stéphane Oignon. Bonsoir, vous allez bien?
Bonsoir, ça va très bien, vous?
Tout commence par super bien. On a plein de questions pour vous, parce que cet article dans le Parisien Magazine, en partenariat avec RTL, est vraiment fascinant parce qu'on se projette vraiment dans presque de la science-fiction. Tout commence déjà par un constat. Combien de millions d'hectares de terres arables, cultivables, se transforment chaque année en sable?
Eh bien, 12 millions d'hectares chaque année. Donc on ne se rend pas forcément compte, mais c'est assez énorme. C'est la taille de la Grèce, du Bénin ou du Honduras. Donc chaque année, voilà, le désert avance, l'équivalent d'un petit pays comme ça.
Mais on dirait que ça avance très vite quand même.
Ça avance très vite, mais un peu partout à la fois. Donc peut-être que ça se voit moins. Mais effectivement,
c'est quoi les régions du monde qui sont principalement concernées?
Alors, c'est toutes les régions qui sont proches d'un désert. Donc, par exemple, il y a tout ce qui est Afrique subsaharienne, au nord de la Chine, sous le désert de Gobi, à l'ouest américain, Nevada, Arizona, Californie, nord du Mexique également. Et puis en Europe, il y a des zones qui ne sont pas désertiques, mais qui sont très arides, comme le sud de l'Espagne, qui sont concernées aussi par ce phénomène.
Alors, je vais poser une question, me faire l'avocat du diable. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément lutter contre la désertification?
À mon avis, vivre dans un désert, c'est pas très agréable déjà.
Certes.
Mais il y a plusieurs raisons très très importantes. Alors la première, c'est l'alimentation, parce que 12 millions d'hectares de terres cultivables qui disparaissent chaque année, c'est autant de ressources en moins. Donc ça fait 20 millions de tonnes de production alimentaire qui disparaissent potentiellement chaque année. Et la population mondiale augmente. Donc là, c'est vraiment un enjeu très fort.
Est-ce qu'il y a un effet sur le réchauffement climatique? Également.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une autre des conséquences importantes, puisque en fait, évidemment, les arbres captent du CO2 et contribuent à diminuer l'effet de serre et le réchauffement climatique. Et plus ils disparaissent, plus le réchauffement climatique s'accélère et plus lui-même favorise l'avancée du désert. Donc c'est un cercle vicieux. Il y a un autre effet aussi qui est important, c'est sur les migrations. On parle beaucoup là en ce moment des migrants, mais l'Afrique subsaharienne par exemple, s'il n'y avait pas autant de problèmes de désertification, peut-être qu'au Niger, au Mali, il y aurait un exode moindre.
Alors là, on a fait un constat, on a posé le décor. Maintenant, on va apporter quelques éléments de solutions, on va dire, de projets. On commence par cette idée d'un designer israélien qui a créé un robot qu'il a baptisé Tumbleweed. À quoi il ressemble et à quoi il sert?
Alors Tumbleweed, c'est à mi-chemin entre le ballon et le cerf-volant, une espèce de bulle blanche recouverte d'arceaux qui roule au gré du vent sur les dunes et qui est bourrée de capteurs. Et ça permet de recueillir tout un tas d'informations, notamment sur le mouvement des dunes, l'avancée du désert et aussi les zones propices ou plantées. Quand le ballon trouve une zone propice, il libère un certain nombre de graines et donc il sème en même temps qu'il mesure.
Donc ça, c'est un projet, est-ce qu'il devrait être utilisé assez rapidement? Alors, parce que ça n'a pas l'air complètement science-fictionnel finalement.
Non, c'est un prototype. Pour l'instant, il n'est pas commercialisé, mais il a été conçu l'année dernière. On peut espérer qu'il le soit à terme.
Alors, on peut lutter contre la désertification par les graines, mais aussi par la pluie. Ça, c'est un autre projet israélien, Rain on Request. C'est encore un robot?
Alors, ça, c'est encore différent. C'est complètement fou. C'est une sorte de station de pluie. C'est-à-dire que c'est un système avec une douzaine de poteaux, un grand poteau central de 30 mètres de haut et une petite dizaine autour, un peu plus petit, qui permet en fait de reproduire le phénomène de ionisation par lequel la pluie se produit. Et donc en fait on fait pleuvoir à la demande grâce à ce petit système là. Alors ça marche vraiment puisque ça permet d'augmenter les précipitations de 50% à 400% sur une surface qui fait à peu près 200 mètres de côté, un carré de 200 mètres de côté.
Donc là pour l'instant on décrit, on va dire, des projets ou des innovations bien avancées qui sont pas encore développés, qui sont pas encore actifs sur le terrain.
On est plutôt dans le stade du prototype, de laisser soit du concept de designer, soit de laisser un petit peu d'ingénieur. Mais celui-ci est pas commercialisé. Et alors, s'il était commercialisé, ça poserait aussi des problèmes même politiques, parce qu'en fait, on s'attribue une ressource qui est la pluie, qui normalement est une ressource qui se déverse de manière aléatoire, par exemple entre les pays. Alors, imaginez que vous mettiez votre station de pluie au bord d'une frontière, vous piquez peut-être le nuage du pays à côté.
Ah, ça, ça pique le nuage de. Tous les petits nuages qui sont potentiellement dans la région.
L'eau qui est dans l'air, elle n'est pas infinie, c'est une ressource en fait, sauf qu'aujourd'hui, on ne se l'est pas attribué.
Mmh. Alors, dans un instant, après les informations, on va voir avec vous, Stéphane Loignon, d'autres projets pour lutter contre la désertification. Par exemple, une grande muraille verte et même des pyramides végétales. Bienvenue dans notre futur. A tout de suite sur RTL, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Curiosité est un vilain défaut.
Moi, je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour.
Jusqu'à 22h. Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles, un peu truquées du jeu, on veut te faire jouer les yeux bandés.
Allez, on redevient un peu sérieux quand même dans la curiosité. Chaque année, 12 millions d'hectares de terres cultivables, soit la superficie de la Grèce, se transforme en sol désertique, ce qui met en péril notre sécurité alimentaire, vous l'avez entendu tout à l'heure, et accentue le réchauffement climatique. On découvre, grâce au Parisien Magazine, en partenariat avec RTL, des projets pour y remédier. C'est Stéphane Loignon qui nous fait découvrir ces projets après le robot semeur, la machine à pluie. Voilà qui approche les lignes vertes. C'est quoi les lignes vertes ?
Alors les lignes vertes, en fait, ce sont des frontières naturelles d'arbres qu'on met à la lisière des déserts pour contenir l'avancée des déserts. Parce qu'en fait, la vraie solution contre la désertification, c'est de planter des arbres. Alors c'est peut-être pas une merveille de technologie, mais finalement c'est ce qui marche le mieux.
Et ça se passe où ?
Alors là, ça se passe en Chine, et la Chine, en 1978, a lancé un grand programme qu'elle a appelé sa grande muraille verte pour border le désert de Gobi, donc au nord du pays, d'arbres qui sont à la fois plantés, en fait, qui sont plantés par deux techniques. Alors, d'abord,
pardon de poser cette question, Stéphane, mais c'est des arbres déjà grands ou sont...
Non, l'idée c'est de planter des graines et après d'apporter.
Ça prend du temps,
par
quand même.
Hein, le projet a été lancé en 1978 et il a un objectif de créer une frontière de 4500 km de long, mais d'ici 50 ans. 2070. Donc en gros, c'est un projet sur un siècle. Il voit.
Ah oui.
Voilà. Après, il y a la planification en Chine, ça permet de voir à long terme.
Et oui, c'est vrai. Et l'Afrique s'est lancée elle aussi dans un projet, mais plutôt de grandes murailles vertes. Donc là, c'est inspiré de la muraille de Chine, mais version.
C'est l'équivalent version africaine. Donc là, ce sont tous les États qui sont en bordure sud du Sahara qui se sont unis suite à l'initiative de l'Union africaine pour créer cette frontière verte. Alors là, c'est 7600 km de long de Dakar à l'ouest à Djibouti à l'est. Et 15 km de large. Et l'idée, c'est de planter pour limiter l'avancée du Sahara dans tous ces états-là.
On parle des arbres, Stéphane Loignon, et il y a un encadré très intéressant dans votre article et votre dossier dans le Parisien Magazine. C'est une invention qui est déjà utilisée, c'est la boîte à arbres.
Oui, alors ça, c'est effectivement une invention assez amusante qui s'appelle Groasis et qui a l'air toute bête, mais qui fonctionne très bien. Donc, c'est une petite boîte de plastique qu'on plante dans la terre pour protéger les jeunes pousses. Et cette petite boîte-là va récupérer la condensation de l'eau pendant la nuit et la faire se verser sur la pousse qui est au centre de la boîte.
Donc, ça récupère de l'eau de pluie.
Ça récupère de l'humidité de l'air qui est condensée, qui est renvoyée vers la plante. Et ça permet d'économiser considérablement l'eau qui serait normalement nécessaire pour faire pousser la plante. Donc jusqu'à 90% d'eau économisée grâce à ce système-là.
C'est utilisé déjà à grande échelle ?
C'est très largement utilisé. Alors je crois qu'ils ont vendu quelques 250 000 exemplaires déjà, et ça vaut 2-3 euros. Donc ça peut être utilisé par des petits paysans un peu partout dans le monde.
Alors là, Stéphane Loignon, on vient de lister un certain nombre de projets plus ou moins avancés, certains qui existent, celui dont on vient de parler, d'autres qui sont de l'ordre du prototype. Maintenant, vous allez nous raconter plutôt des projets qui tiennent presque de la science-fiction, qu'ont imaginé par exemple les graphistes et les architectes américains de la société qui s'appelle Matisse Design.
Alors eux, ils ont eu une idée assez folle qui relève vraiment de la science-fiction, qui est de créer une cité souterraine sous le désert du Nevada pour non pas lutter contre la désertification, mais s'y adapter. Donc ils prennent pour parti pris que le désert va gagner du terrain, qu'on ne pourra rien faire contre ça, qu'il faut donc vivre avec ce désert. Et donc sous le désert, ils ont conçu une cité qui est constituée de plein de petites alvéoles dans lesquelles qui sont irriguées. Et en fait, les citoyens de cette petite ville vivraient sous la terre, entre des canaux qui irrigueraient leur culture, etc., mais protégés du coup par l'ombre du fait qu'ils vivent sous la terre.
Et c'est inspiré d'un vrai roman de science-fiction.
Alors, c'est de la science-fiction. Enfin, c'est inspiré effectivement du roman de science-fiction Dune, qui est le plus grand classique de science-fiction. Mmh. Il y a eu aussi un film avec Sting. Et dans Dune, la planète Dune est une planète désertique, et donc les habitants doivent s'adapter à ces conditions très difficiles, puisque l'eau est extrêmement rare. Et ils vivent dans ce qui s'appelle alors des Siege, je crois, qui a donné le nom à ce projet qui s'appelle Siege Nevada.
Mmh. Alors, il y a un autre projet un peu foufou que vous évoquez dans le Parisien Magazine, apparaître demain, un projet qui réanimerait ou qui démomifierait à mon avis les pharaons, s'ils en entendaient pas parler, c'est de transformer les pyramides en serre végétale. Oui, alors, et un grand complexe touristique encore
là,
plus grand.
Là, c'est peut-être encore plus fou que le projet précédent. L'idée, c'est de construire une pyramide de verre comme celle du Louvre, mais alors gigantesque, et qui recouvrirait les trois pyramides de Gizeh et créerait une serre sous laquelle seraient plantés des cactus, des bananiers. Et cette serre, en fait, serait assez technologique, puisqu'elle serait équipée de pièges à condensation. Donc, c'est des petits systèmes sur les parois de verre qui permettent, là encore, de récupérer l'humidité ambiante et de faire en sorte que cette humidité-là se condense et que l'eau soit reversée et récupérée pour, à la fois pour toutes les plantes qui vivent sous cette serre et aussi pour les habitations alentour.
Bon, alors on regarde, on voit le projet quand même, on voit la photo dans le Parisien Magazine.
C'est magnifique.
Ah bon?
Ah bon, pardon,
c'est un peu moche, mais bon.
Oui, j'adore.
Comme quoi, hein, tous les goûts sont dans la nature.
Rassurez-vous,
du
ça
verre, de la
pas
pierre.
Vraiment.
Ah bon, d'accord. Bon, d'accord. Donc, c'est votre numéro du Parisien Magazine, l'article des collecteurs, c'est ça?
Voilà.
On le voit pour la première et dernière fois.
Après, c'est quand même intéressant, notamment par la mise en avant de ces systèmes de pièges à condensation qui permettent de récupérer de l'eau dans des régions très arides comme
oui,
ça.
Oui, c'est ça qui est intéressant. Même dans les projets les plus fous, on peut trouver une niche technologique, une avancée qui sera utile.
Voilà, il y a des pistes, et puis ça permet aussi d'ouvrir un peu le champ de l'imagination, et puis aussi d'alerter, de sensibiliser les gens à ce problème de la désertification par quelque chose de spectaculaire et qui fait un peu rêver.
Merci beaucoup Stéphane Oignon, c'est un dossier passionnant à lire dans le Parisien Magazine qui sort demain. À très bientôt.
Merci.
Au micro
Merci
de la Curiosité.
Vous écoutez RTL.